Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes toujours en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Bordeaux sur 106.00 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec le beau vignoble de Gigondas. Un coup de cœur pour le cépage Riesling, le festival international sur le vin et le cinoche. Hein. C'est Enovideo et le Vino Quiz pour gagner des jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.fm. À mes côtés, ils sont tous là aujourd'hui. Hélène Pio, David Cobol et Philippe Fourbach. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Pour commencer cette émission, Invino Sud Radio retrouve Hélène Pio, journaliste au magazine Régal, avec qui nous accueillons un invité exceptionnel, Jean-Guillaume Pratt, président des domaines Baron de Rothschild Lafitte. Bonjour Jean-Guillaume.
Bonjour.
Alors racontez-nous, parce qu'au-delà de Pauillac, vous fréquentez aussi les horizons aux quatre coins du monde, et notamment en Chine.
Il y a une grande culture de développer des vignobles en dehors des terres médocaines au sein de la famille Rothschild. Et historiquement, la famille est présente en Amérique du Sud, dans le sud de la France, en Languedoc. Et puis tout récemment, en Chine, dans la province du Shandong, qui se trouve entre Tianjin et Qingdao. C'est dans l'axe de Pyongyang, en Corée du Nord, de l'autre côté de la mer Jaune.
En face d'eux, dans ce moment, c'est la
juste, juste en face. Et peut-être que ces quelques coteaux de vigne apportent un peu de sérénité dans l'ambiance du moment.
Hélène, vous connaissez la Chine ou pas?
Alors, je ne connais pas, mais je ne demande qu'à connaître, parce que ce domaine fait rêver, effectivement. Bon, alors, on va resituer pour les extraterrestres qui nous capteraient depuis Mars et qui ne sauraient pas ce que sont les domaines Baron de Rothschild Lafitte.
Oui.
Donc, on va mettre ça en perspective. Donc, le domaine Baron de Rothschild Lafitte, bien sûr, on cite d'abord la pépite, le vaisseau amiral, le château Lafitte Rothschild, et puis le château du Harmilon à Pauillac, Rieussec à Sauternes, l'Évangile à Bordeaux.
Il n'y a que des stars en fait. Hein.
Oui, absolument. Oui. Alors, oui et non, parce que j'avoue que le domaine d'Aussière au Languedoc, moi j'aime beaucoup, mais c'est moins connu. Et puis à l'étranger, plein de choses, effectivement. La Viña Los Vascos au Chili, la Bodegas Caro en Argentine. Et puis effectivement, depuis 2008 déjà, ce domaine Longdaï. Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le domaine est, je dirais, enfin ouvert au public.
Oui, alors, juste avant, Philippe Varac, vous voulez faire un petit commentaire?
Et le champagne aussi, parce que pour la première fois de l'histoire, les familles se sont rassemblées pour créer une marque Baron de Rothschild Champagne.
C'est le seul projet qui unit les trois branches familiales qui sont dans le vin.
On imagine les négos pour arriver là quand même. Hein. Ça a dû en savonner les planches.
Dans la même passion permet de soulever toutes les barrières.
Merci monsieur le ministre. Hélène.
Donc effectivement, moi j'étais plus sur les vins tranquilles là, mais Philippe a raison. Et donc désormais la Chine, je disais l'actualité, c'est l'ouverture au public de ce domaine et puis la vente du premier millésime, ça y est, qui arrive sur le marché 2017.
Oui, merci. C'est une très, très belle aventure qui a entamée il y a une dizaine d'années avec la constitution Xilo avec une feuille blanche d'un vignoble de toutes pièces, qui est quand même un pari qui prend du temps. Le baron Éric de Rothschild a l'habitude de dire, dans notre métier, le plus difficile, c'est les 100 premières années. Donc, on en est à 10, donc on a un peu de temps.
Plus de 90, allez.
Voilà, on a encore le droit à l'erreur, ce qui est bon signe. Et on a planté des vignes il y a 10 ans dans un terroir très connu qui est celui du Shandong, qui est historique en Chine. Il y a plusieurs terroirs avec des expressions très différentes en Chine. Et on a mis en marché la semaine dernière notre 2017.
Terroir historique, ça veut dire qu'il y avait déjà du vin là il y a 50 ou 100 ans?
Oui. Les grands vignobles chinois ont disparu avec la révolution culturelle. Tout a été totalement arraché. Mais il y a une culture de la vigne au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, il s'agit de retrouver les savoir-faire qui ont totalement disparu. Mais surtout, c'est de s'adapter avec des incidences météo et le réchauffement climatique est une réalité en Chine également, qui sont le plus adéquates pour la conduite du Vitis vinifera.
Donc aujourd'hui, vous avez 30 hectares plantés, donc 25 en production. Avec quel cépage?
Alors, des cépages bordelais, du Cabernet Sauvignon, un peu de Merlot, et puis un cépage local qui s'appelle le Marcellan, qui est très populaire en Chine.
Alors, est-ce que c'est local, Philippe Fourbach et David Cobol?
Non, c'est local parce que ça a été créé en France en 1961. Hein,
ça vient du sud de la France, absolument. C'est des cépages languedociens et qu'on retrouve dans le nord de l'Espagne.
Exactement. Marcellan, c'est un croisement de Cabernet et de Grenache.
Cabernet et Grenache, initialement, pour réduire le taux d'alcool du Grenache. Alors, Jean-Guillaume, j'étais toujours interloqué quand j'ai vu où vous avez choisi d'implanter ce vignoble, parce que cette région de Shandong plutôt une région humide. Est-ce que ça vous pose des problèmes particuliers, cette climatologie-là?
Alors, c'est une région avec des conditions climatiques qui peut être proches des millésimes compliqués à Bordeaux, c'est-à-dire avec des pressions océaniques. Un peu moins aujourd'hui, mais dans les années 80-90, on était très habitués à ces conditions météo dans le Bordelais. Ça n'a pas empêché de faire des grands vins. Pourquoi on est allé là? Parce que si vous allez un peu plus au nord, dans le Hebei ou Ningxia, Yinchuan, vous avez l'influence très fraîche de la Mongolie intérieure ou de la Mandchourie qui vous oblige à buter les vignes, c'est-à-dire à
enterrer. En hiver.
Exactement. Et oui. Ce qui n'est pas un problème, ça se fait au Canada, dans la péninsule du Niagara, mais vous perdez beaucoup de pieds de vigne.
Mais vous les couvrez vigne par vigne ou alors c'est des grands espaces? Comment ça se passe?
Pied par pied.
Pied par pied.
Alors, c'est pas ce que nous faisons, justement.
D'accord.
Ça, c'est ce que vous êtes contraint de faire dans le nord de la Chine.
Et d'ailleurs, même les planter légèrement couchés pour pouvoir les
bien sûr.
Sinon, ça gèle.
Ça gèle, puisqu'on a des descentes d'air de Mongolie et de Mandchourie qui font moins 30, moins 35. Le Shandong est beaucoup plus tempéré. C'est un climat océanique. On est à 15 km de la mer de Chine, avec les incidences qu'on peut connaître quand on a des dépressions.
Hélène.
Donc, cette cuvée 2017 qui sort, là, vous avez dit Cabernet Sauvignon, Marcellin, Cabernet Franc. Quand est-ce que les Français vont pouvoir la goûter? Pas tout de suite, hein, je crois. On doit attendre encore un peu.
Probablement début 2020. On a malheureusement très peu de vin cette année. On en a conservé un tout petit peu pour les marchés d'exportation et pour le marché français. Et on va organiser la distribution en France en janvier ou en février prochain.
Le business, comment ça se passe? Vous vendez bien les vins, toutes catégories confondues? Vous sentez que parfois sur les grands vins ça commence à peiner au-delà de 100 000 euros la bouteille?
Je veux dire que paradoxalement, comme le monde du luxe va plutôt bien à travers le monde et les produits exception, que ce soit la joaillerie, la maroquinerie, les voitures d'exception, les grands bateaux et les grands vins, fonctionnent plutôt pas mal, donc on est loin de se plaindre. Ce que je vois, c'est que le consommateur est de plus en plus averti, de plus en plus versatile dans ses choix, de plus en plus amateur et voulant avoir des expériences très différentes du jour au lendemain. Et ça rend le côté beaucoup plus passionnant pour nous, parce que ça veut dire qu'il faut se remettre en cause, évoluer.
Et c'est quand même excitant d'avoir aussi dans votre gamme des vins génériques bordelais qui sont d'excellente qualité, et après des stars inatteignables. Enfin, c'est quand même fou, c'est très sympa de travailler sur ces différents sujets.
Mais bien sûr, nous tous autour de la table, on aimerait boire du Château Lafite tous les jours, et ça nous arrive de
temps. Nous, c'est le cas, je ne sais pas pour vous.
Ça nous arrive de temps en temps, mais on boit des vins du Chili, Los Bascos, qui est une magnifique cave, c'est délicieux.
Et alors, à quel prix, justement, est-ce qu'on pourra goûter ces quelques bouteilles qui arriveront en janvier?
Alors, ce seront malheureusement des bouteilles assez chères qui seront probablement lourdes de 200 à 250 euros.
Ah, d'accord, donc positionnez très haut de gamme.
On n'est pas aux 100 000 dont vous parliez, vous voyez, c'est très accessible. Monsieur,
c'est la promo chinoise. Merci beaucoup, Jean-Guillaume. Merci également, Hélène. Une vidéo sur une radio retrouve Philippe Forbach, président de la Sommellerie française, pour nous parler d'une région qui est magnifique. Voilà. Les paysages sont beaux et puis les vins sont excellents. On est en France, monsieur.
On est en France, on est dans la vallée du Rhône, au pied des dentelles de Montmirail, pas loin du Ventoux. Je vais vous parler de l'appellation Gigondas. C'est une appellation, c'est un territoire qui est connu depuis très longtemps. Alors, on évoque souvent l'époque romaine, mais c'est vrai que dans ce coin-là, et les fouilles récentes d'ailleurs ont permis de mettre en évidence un certain nombre de vestiges de cette époque. C'est une région qui a toujours été notamment habitée, mais également qui a toujours produit du vin, des cultures, des oliviers, des lavandes et plein de ce qu'on appelle la culture provençale. Alors, le territoire et la géologie est particulière, puisque il y a ces fameuses dentelles
du
Montmirail.
Je remercie Philippe pour son emploi du mot territoire.
Voilà. La géologie est particulière, il y a eu pression à la fois pyrénéenne et alpine. La faille de Nîmes qui est venue se concentrer là pour créer effectivement ces fameuses dentelles surmontées de ce qu'on appelle le rocher du Turc qui culmine à 630 mètres d'altitude.
Du Turc. Il était là, le Turc.
Il était là à ce moment donné, mais il a disparu.
Jean-Guillaume, vous en pensez quoi? Un commentaire sur le Turc?
C'est comme ça qu'on appelle ce rocher. Peut-être parce qu'il a une forme arrondie, c'est donc tel comme ça,
oui,
que c'est forme un croissant, peut-être le croissant turc. La même raison que la parcelle, la turque, appartient à la famille Guillaume.
Bien sûr,
c'est pour ça que la Turquie devient un grand territoire de vin également.
Exactement.
Une grande viticulture.
Pendant très longtemps, c'est déjà un grand territoire de vignes, puisque c'est un très grand vignoble. Et par contre, effectivement, on y cultive surtout du sultanat en Turquie, qui fait des raisins de table. Mais il y a une partie, effectivement, qui se développe pour le vertige vinifera et des variétés effectivement comestibles.
Est-ce qu'il y a beaucoup de Turcs alors, Gigondas?
Bon, pour revenir alors à notre appellation Gigondas, c'est une appellation célèbre qui est un peu dans l'ombre de l'appellation Châteauneuf du Pape. C'est vrai, on compare souvent un peu les deux en disant Gigondas c'est un petit peu le petit frère de Châteauneuf. L'appellation d'ailleurs n'a été reconnue qu'à partir de 1972, alors que Châteauneuf a été la pionnière en matière d'appellation d'origine contrôlée, grâce notamment au baron Leroy de Boisemarié, créateur de l'INAO et originaire de Châteauneuf-du-Pape. Mais c'est une appellation qui a sa raison d'être. Des jolis rouges élaborés à partir de Grenache, pour l'essentiel, hein, avec bien sûr Syrah et Mourvèdre en complément, et aussi de très jolis rosés. Alors des rosés un peu sur la puissance et l'intensité, pas trop le rosé dans l'esprit provençal, dans lequel on va retrouver du Grenache essentiellement, 80% minimum.
C'est-à-dire des rosés qui ont du goût, quoi.
Du rosé de table, des rosés de gastronomie, des rosés, voilà, on s'assoit pour les boire, quoi, à table, pas simplement en terrasse. Et donc, du coup, ça donne des vins qui ont beaucoup de matière, et ça donne, ce qui est original, des rosés qu'on peut garder. Moi, il m'est arrivé de goûter des Gigondas rosés de 10 ans d'âge, en disant, bon, ça tient. Allez, on va ouvrir ça, parce que de toute façon, sinon, on va jamais le boire. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Et finalement, on se dit, mais franchement, on aurait peut-être dû... On pourrait faire davantage attention parce que ça mérite effectivement de se garder. Donc, je vais vous résumer un peu l'histoire du Gigondas. Et c'est une histoire très intéressante parce qu'au-delà de l'époque romaine que j'évoquais tout à l'heure, des périodes que l'on connaît, monastiques, etc., il y a les fameux princes d'Orange, puisqu'on est vraiment à proximité d'Orange, qui ont beaucoup œuvré dans cette région aussi. L'époque papale également, au XIVe siècle, a été aussi assez intéressante. Et Gigondas a été rattaché pendant très longtemps à Carpentras, qui a été capitale d'ailleurs de ce secteur pendant longtemps et qui avait un rayonnement assez extraordinaire. On trouve à Gigondas beaucoup de richesses, des remparts, des tours plus ou moins encore en état, etc. On y a créé d'ailleurs il y a quelques années, en 2005, ils ont mis en évidence une promenade paysagère. Il y a l'histoire du site de Gigondas et de la vigne et du vin, et qui a mis en valeur effectivement des vestiges anciens qui montrent effectivement l'histoire et l'intériorité dans cette appellation. Voilà, le phylloxéra a touché l'appellation comme toujours. Hein. On a arraché les vignes à l'époque du phylloxéra pour y mettre des oliviers, et puis en 1956, ça a gelé.
Le retour, quoi.
Les oliviers quelques ont gelé aussi, on y remet de la vigne. Aujourd'hui, on s'est bien, bien développé avec des très jolis vins. Alors, quelques vignerons, le domaine de Palières, le vin de Cécile Chassagne, sur Sablé, mais qui produit du Gigondas, le domaine des Fleurets, la bergerie de la Plane, mes coups de cœur de ces dernières années, dans les classiques, Montmirail, Montirus, Clos de Cazaux, ou encore l'investissement de la famille Perrin il y a quelques années avec le Côté de Tourelle, qui est tout à fait remarquable.
Très bon, ouais.
Température de service également, c'est un élément important. Alors, pour les rouges, vins chaleureux quand même.
Oui,
hein, pour les rouges.
Pour les rosés autour de... Oui, pas trop froid non plus pour les rosés autour de 10 degrés. Et pour les rouges, c'est formidable autour de 16, 17 degrés. Effectivement, pas trop chaud. Et ça peut se conserver, je le disais tout à l'heure, sans aucun problème pour les rouges, comme pour les rosés, ce qui est plus rare pour les rosés. Et ce sont des jolis vins de gastronomie, de façon générale. On rentre dans le vif de l'automne et de l'hiver, on peut en profiter.
Il faut y aller. Merci beaucoup, Philippe Aurac. Merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas, à Paris, place de la Madeleine, avec le Ville Quiz, pour gagner un très joli cadeau en jouant sur invinoradio.fm.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas, place de la Madeleine à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et une nouvelle invitée, elle est formidable, Corinne Boulbès. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Alors vous êtes, j'allais dire, la mère génitrice de ce magnifique festival Euno Vidéo. Et oui, alors racontez-nous l'histoire. Ça fait combien d'années qu'il existe ce super festival à pas louper ?
Eh bien, cette année, c'était la 26e rencontre internationale entre le monde du cinéma et du vin. On a été reçus magnifiquement à Marseille, au Mucem, au cœur des vignobles de Provence. Et là, les festivaliers ont pu visionner 37 films en sélection officielle.
Alors, racontez-nous un peu les coulisses de ce festival. Donc, il a été créé par qui ? Et parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévoles qui s'en occupent, hein ?
Alors effectivement, c'est une association, l'association Loi 1901, qui depuis 26 ans est à l'origine de ce festival. Et quand le festival a commencé, c'était vraiment un monde balbutiant, l'image débutait à peine. Il y avait quelques images, pas de grande qualité. Et aujourd'hui, on voit que 26 ans après, la diversité des productions cinématographiques n'a cessé de s'amplifier d'année en année. La qualité des images, les formats... on voit vraiment qu'il y a un lien étroit entre le vin et le cinéma, que ça inspire énormément de réalisateurs, de producteurs. Et du coup, le festival va grandir d'année en année.
Ah, c'est voilà. Génial. Hélène, vous êtes déjà participée à ce festival ou pas?
Alors, j'ai voulu participer à ce festival. J'ai été invitée parfois et j'ai jamais trouvé le temps, mais il faut absolument que je
l'année vienne. L'année prochaine, on compte sur vous. Allez-y, Hélène, j'en prie.
Donc, effectivement, cette 26e édition a eu lieu cette année sous la présidence de Catherine Lamour pour le grand jury Nos Vidéos. Donc, journaliste, créatrice du département des documentaires de Canal+. Je pense quand même une dame qui sait de quoi elle parle en matière d'image, en matière de vin aussi, puisque c'est une femme du vin de famille, je dirais. Alors bon, qu'est-ce que ça fait, Corinne, de visionner, vous le disiez, avec le succès grandissant, cette année vous avez eu 144 films à visionner de 17 pays en compétition. Comment on vous fait pour n'en sélectionner que 37?
Écoutez, c'est d'abord l'expérience, parce qu'effectivement en 26 ans on a vu énormément de films, et puis on essaye de faire une programmation, donc on a des critères, hein. Bon, on a des critères très rigoureux de qualité, et ça depuis 26 ans, et après l'idée c'est aussi de faire une programmation qui montre toute la variété et la multiplicité de parler du vin dans le monde entier. Donc il y a cette idée aussi de laisser place à toutes ces formes d'expression, et c'est ça qui fait la richesse du festival, parce que c'est inédit pendant trois jours, de voir 37 films du monde entier qui, sous des formats différents, du long au court-métrage, sont mille et une façons de parler du vin.
Et alors, cette façon de parler du vin, ce qui est formidable aussi, c'est que ça en fait parler entre nous, j'ai envie de dire, les professionnels, mais ça va bien au-delà de ça, puisque la cérémonie officielle du palmarès, ça aura lieu demain. Alors, c'est pas sur les marches du Festival de Cannes, hein, mais c'est tout aussi prestigieux, puisque c'est au Palais du Luxembourg à Paris.
Oui, tout à fait. Et on peut mettre en lien le lien vers l'invitation, et les personnes qui souhaitent, s'il reste encore quelques places.
Ah, on peut venir vous rejoindre dans les beaux quartiers parisiens.
Les passionnés, je crois qu'il reste quasiment plus de places à cette heure-ci, mais en tout cas, c'est une façon de voir la représentativité des films, puisqu'en fait, les trophées, les lauréats, en fait, seront présents demain à Paris, au Palais du Luxembourg, l'ensemble des réalisateurs et des producteurs du monde entier qui viendront recevoir leur trophée.
Oui, puisqu'effectivement, voilà. Il y avait 17 films en compétition. Alors que nos auditeurs se rassurent s'ils ne peuvent pas être demain au Palais du Luxembourg, il y a évidemment beaucoup d'autres occasions, puisque c'est un festival qui se balade ensuite, notamment dès cette semaine, jeudi, à l'Imaginarium en Bourgogne, on peut voir les best-of du festival. Donc ça va être très sympa. Puis ouais, ça va se balader un petit peu partout ensuite, hein.
Oui, c'est ça. Et demain, au Luxembourg, nous allons annoncer quelle est la prochaine ville, le prochain vignoble.
Ah, dites-le nous.
Ah, mais je ne peux pas.
Ah, mais si, Corinne. Ah, il est quand même 12h45. Là, c'est le moment avant le déjeuner d'avoir une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut au moins citer les lauréats ou c'est vraiment secret?
Alors, les lauréats sont connus puisqu'ils ont été déclarés.
Alors justement, alors qui a gagné dans les différentes catégories? Faites tous saliver.
On ne peut pas tous les citer. Hein.
Non, parce qu'il y a eu 14 films. Donc, sur les 37 films, sur les 144 films en compétition, 37 ont été en sélection officielle et 14 ont été primés.
Alors, lesquels?
Ces 14 films, on ne peut pas tous les citer. Vous pouvez tous les retrouver sur le site Nos Vidéos. Mais par exemple, je peux vous citer Le Grand Prix.
Alors, Le Grand Prix.
C'est un film espagnol, d'un réalisateur espagnol. Le film s'appelle 40 hectares, la terre et le cultivateur. Et c'est un film magnifique qui questionne sur l'avenir des viticulteurs face aux géants mondialisés de la viticulture. Donc c'est clairement un film qui est au cœur des grandes tendances du festival, une forme de rupture entre une viticulture industrialisée et un retour aux méthodes naturelles. Donc voilà, un grand film, un grand prix qui illustre bien les tendances du festival de cette année.
Alors moi, il y a quatre films sur lesquels je voudrais revenir également. C'est le prix du public, parce que c'est un petit peu mon prix quand même, je voudrais le dire. Parce que j'avais consacré une chronique à ce film l'an dernier à l'antenne. C'est Wine Calling, le vin se lève. C'est le grand prix du public cette année. Et c'est un film magnifique qui avait rencontré pas mal de succès pour un film indépendant à l'époque. Voilà, très chouette. Et puis, les films, on va dire, techniques, voilà, des très courts-métrages entre 2 et 7 minutes qui sont sont des films, on va dire, de domaine. Oui. Il y a La Forêt Perraguet, Durfort Vivens, La Tonnelle Rérousseau, voilà, qui sont comme ça récompensés à travers des films sur des belles entreprises du vin.
Pour terminer, Corinne a un site internet sur lequel on peut avoir le nom des lauréats, éventuellement prendre enseignement sur l'ensemble de votre programmation en France.
Tout à fait, enovideo.com. Donc, dès demain, l'annonce de la prochaine destination, tous les films au palmarès.
Vous ne l'avez dit toujours pas, la destination. Vous voulez toujours la garder secrète jusqu'à demain.
Oui,
c'est en France.
Est-ce que c'est en France, Corinne?
Oui, c'est en France cette année.
Bon, ça va, allez, c'est un demi-scoop, quoi. Merci beaucoup, Corinne. Merci beaucoup également à vous, Hélène. In Vino Sud Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour une véritable déclaration d'amour, sachant qu'aujourd'hui, sa muse se prénomme Riesling.
Mademoiselle ou Madame Riesling, oui. Oui, j'avoue, je n'ai pas honte de dire que ce cépage est pour moi, peut être, parce qu'il y a des bons et des moins bons, comme toujours, extraordinaire, exceptionnel. C'est un cépage qui me fait vibrer, qui me fait chanter.
On va se calmer, David. Non, on va se calmer.
Je n'irai pas plus loin. C'est un cépage qui me rentre dans le corps.
Oui, on a compris. Alors, on continue. Alors, Riesling, voilà.
Alors, surtout, lorsque sont absents ces arômes un peu bizarres, que moi, je n'aime pas, et qu'on s'apparente parfois au pétrole, à la paraffine.
Ça vient d'où, David?
Alors, je vais y revenir.
Aux hydrocarbures.
Alors, oui, aux hydrocarbures, mais évidemment, les gens qui produisent des vins qui ont ces arômes ne les appellent pas pétrole. Ils trouvent des manières de détourner la chose en appelant ça des arômes aillés, voire de truffes blanches. Mais quand même, ça pue le pétrole, voilà. Alors, parfois, c'est un fait de l'évolution dans le temps du vin. Il faut l'avouer que certains Riesling, très jeunes, ne sentent pas. Et ensuite, c'est un arôme qui se développe un peu sous l'effet de la réduction, peut-être en bouteille. Il y a un autre facteur qui va peut-être répondre à votre question, Alain. Je trouve qu'il y a un lien très fort avec les climats plutôt que chauds pour ce cépage. C'est-à-dire que beaucoup de Riesling australiens, il y en a de très, très bons, mais beaucoup de Riesling de Hidden Valley, Clare Valley, c'est les deux grandes régions en South Australia, ont fait du Riesling, ont ces arômes. Aussi pas mal de Riesling d'Alsace. Or, pour trouver des Riesling qui, globalement, ont presque jamais ces arômes, il faut remonter vers des climats un peu plus frais, en Allemagne notamment, dans la Moselle, dans le Rheingau, dans le Rheinhessen, dans le Pfalz, le Palatinat. Et c'est là où on trouve des climats plus frais. Alors, j'ai beaucoup interrogé des producteurs sur ce phénomène. Parfois, on me dégage avec un coup de botte vers la touche la plus proche en disant « c'est le terroir ». Ça, c'est absolument nul. C'est pas lié au terroir. C'est-à-dire que si c'était vrai, on aurait des Riesling sur certains types de sols qui sentiraient ça et sur d'autres types de sols qui ne sentent pas. Alors, j'ai fait des grandes dégustations de Riesling. Je trouve ça dans tous les types de sols. Ça dépend plutôt de l'effet du soleil, je pense, et ou de la chaleur, les deux combinés. Et peut-être une absence de protection par la foliaire, c'est-à-dire pas assez de feuilles qui couvrent les grappes. Donc, c'est un phénomène qui est lié à des phénols, donc dans la peau des raisins, et qui sont exacerbés par l'effet de la chaleur.
Mais est-ce qu'on peut l'éviter, ce phénomène, David, ou pas?
On peut l'éviter, soit en choisissant un lieu plus frais, soit en protégeant les grappes par de la feuille, c'est-à-dire pas en effeuillant les raisins. Peut-être par un triturage, voilà, beaucoup de précautions. C'est un cépage à la fois fort et délicat. Et c'est ça que j'aime dans son goût, parce que le goût est à la fois fin et puissant, durable, et avec une caresse parfois dans la texture que je trouve très, très intéressant. C'est une caresse parfois un peu virile, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une texture légèrement phénolique, légèrement herbacée, qui fait durer les sensations.
Vous me faites rêver, David.
Donc c'est un très grand cépage.
Oui, Hélène, qui est en train d'écouter, vraiment bouche bée, si je puis dire.
C'est aussi un cépage qui est polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut être grand dans les très secs, dans les demi-secs, dans les doux et dans les grands liquoreux. Il couvre toute la gamme et il y a même des bulles qui sont faites avec le Riesling. Encore que je trouve que ce n'est pas nécessairement le plus adapté pour faire des bulles. Alors, je vais quand même illustrer ça par un coup de cœur. Hein, comme j'ai parlé hier de la région de Pfalz, j'ai sélectionné, et c'est un peu un hasard, puisque j'étais chez ma mère en Angleterre il n'y a pas très longtemps, et j'ai fait des incursions dans sa cave pour goûter quelques vins, et j'ai trouvé un Riesling du Pfalz de 2010. C'était pas un Riesling très haut de gamme, c'était pas l'équivalent d'un Erste Lagen ou un Gross Gewerz, les grands crus d'Allemagne. C'était un Riesling réserve, Kellermeister, de Von Bull, célèbre producteur Von Bull, qui fait une énorme gamme de vins dans le Pfalz, et très très bon. J'ai goûté des pinots noirs magnifiques de chez lui, et aussi des très bonnes bulles, hein, donc son nom est bien porté. Et je trouvais qu'il avait, avec le temps, parce que là il avait 9 ans, le couleur très pâle, un peu verdoyant qu'on trouve dans les jeunes Riesling, s'était renforcé vers un or profond, mais il restait très jeune. Fermé en capsule à vis, je le précise, hein, donc il n'y a absolument pas d'oxydation possible, ni de défaut lié à ces horribles morceaux de liège massif. Et les arômes étaient virés un peu vers le tertiaire, mais sans avoir gagné ces arômes de pétrole. Donc c'était riche, c'était poire, c'était pêche, et beaucoup de profondeur. Et une petite touche, pointe de miel sur le début de la langue, je pense qu'il y avait un peu de sucre résiduel, mais c'était l'acidité qui dominait, ça faisait durer le vin. Moi, j'ai presque chanté quand j'ai goûté. Grand coup de cœur. Et c'est pas très cher, ça vaut moins de entre 10 et 15 euros.
Merci beaucoup David Cobold, merci également à vous Corinne Boulbès, Hélène Piau et Philippe Orbach. Merci également à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fm ou notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.
Sud Radio Invino.